Salut!
Voilà!
Bon matin, bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom, c'est Yann Marceau. Son nom, elle, c'est Audrey Pinchot.
What's
elle
up?
Elle pas de bonne humeur à matin. Fait que la tâche ingrate revient à moi.
Oui.
Je devrais la rendre heureuse.
Mais je suis pas de mauvaise humeur.
Ça commence à être redondant. Toutes les femmes que je rencontre me demandent de leur faire plaisir.
C'est lourd, ça. C'est difficile.
C'est qui se passe? Moi, ça, t'as mal à la tête de même.
Ah, c'est épouvantable. Je sais pas. Tu sais, il y a des affaires qui causent cet ensuite. Tout le monde est malade, la grippe, le streptocoque, toutes sortes d'affaires. J'ai été chanceuse. J'ai rien pogné, je pense,
là,
jusqu'à maintenant.
Là, tu files pas. Tu viens travailler avec moi dans le même studio puis tu choisis le poste en face de moi.
Oui, mais j'ai aucun symptôme de rien. J'ai juste un sacré mal de tête qui part pas. Tu sais, tu prends des Advil, des Tylenol en alternance. T'as pas à t'inquiéter, t'as pas à mettre de masque. Tout va bien. Je te jure que tout va bien aller. Mais je me demande si c'est pas le début de quelque chose parce que...
C'est ça qu'ils nous disaient quand on disait « Hey, tu te protèges pas. » »« Non, non, je suis correct, chérie. J'ai rien. » Ouais, mais tu devrais peut-être te protéger. Non,
je te jure, je suis correct.
Je te jure, je suis correct.
Mais moi, je te jure. Je te jure, pour vrai. Non, c'est vraiment un gros mal de tête que je suis prêt à me débarrasser. J'ai mal dormi, puis c'est la mort. Mais bon. Je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur de te rejoindre en onde. Je suis contente de retrouver nos auditeurs. C'est juste, j'ai la tête dans le derrière.
Peut-être. Que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui ta vie c'est la merde. Pourquoi t'es rentré travailler? Tu te sentais-tu obligé?
Je colle pas malade pour le fun.
Non.
Non, j'aime pas ça. Je me suis toujours senti coupable de coller malade.
Des fois, j'ai envie les syndiqués.
Ouais,
des fois, j'ai envie les
dire.
Syndiqués qui, tu sais, quand ils ont une grippe, là, ils préfèrent rester à la maison, pas travailler pantoute ou travailler de la maison. Moi, nous autres, on peut pas se le permettre. Fait qu'il y a un petit peu de jalousie. Tu sais, le fonds de pension qu'ils ont, il y a un petit peu de jalousie là. Puis le fait qu'ils sont pas obligés de rentrer quand ils sont malades. Malgré qu'on n'est pas obligé de rentrer non plus.
Non, on n'est pas obligé pantoute, là. Mais il y a toujours le réflexe de se dire, je viens quand même bien masser en studio. Puis ben, j'avoue que je te supporte, là. Ça, c'est quand même... C'est quand même quelque chose, là, mais...
Si tu savais comment il y a personne qui voudrait être à ta place, Audrey!
Je pourrais te lancer la même affaire. Non, mais c'est que tu te dis, c'est juste un mal de tête, je vais prendre Advil, ça va passer.
Ouais.
Là, ça passe pas encore. J'espère que d'ici la fin de la journée, ça va passer parce qu'elle va être longue anti-pépère. Avez-vous des trucs?
Ouais.
À matin, j'étais là avec un sac magique.
Les gars, ils ont-tu plus souvent mal à la tête que les filles? Parce que moi, c'est rendu que j'étais à la maison des fois, puis là, bon, c'est l'heure d'aller se coucher. Fait que j'arrive avec un verre d'eau, je dis à ma blonde, tiens, prends un verre d'eau, puis elle dit, mais pourquoi tu prends un verre d'eau? Mais tiens, mais c'est des verre d'eau avec des aspirines, puis elle dit, mais j'ai pas mal à la tête. Je t'ai eu.
Fait que là. Salopard.
Ah oui, c'est ça.
Parce que tu penses que c'est l'excuse facile, hein?
Pour les filles!
Je vais te dire quelque chose.
Les gars, on est toujours prêts au combat.
Non, mais des fois.
Fight!
Ça dépend, là. Attends. Je pense qu'hormonalement, peut-être qu'il y a des moments, oui, où on a plus de maux de tête. Mm-hmm. Je sais pas, les filles, 88-971-101 ou les boys, selon votre expérience.
On me dit que le mix, là, c'est Advil et Tylenol ensemble.
Ouais, d'une shot, deux.
Puis à ça, j'ajouterais quelques ponces de gin.
Le pire, c'est que hier, j'ai essayé le cidre. Je me suis dit peut-être que l'alcool va aider. Tu sais, pas du tout. L'alcool a pas aidé, fait que je suis au thé ce matin. Je suis au thé au Advil. C'est franchement plate.
Thé et Advil.
Oui. Ils disent que la caféine, ça aide à faire assimiler le produit, le médicament. C'est peut-être un mythe. Mais ils disent.
C'est ta grand-mère qui t'a dit ça?
Non. C'est ma mère. Écoute, peut-être que ça vient de ma grand-mère.
Ouais, mais... que nos grands-mères nous mentaient dans le temps. Mais peut-être pas la tienne, parce qu'elle faisait partie d'une autre génération que la mienne. Mais...
Non, mais les bons vieux trucs, Coke Advil.
Je me souviens de ma grand-mère qui disait « mouche de moutarde ». Après ça...
Mouche de moutarde.
Ouais, va
c'est
checker la recette, là. Puis si tu la faisais mal, tu pouvais rendre ton petit enfant un grand brûlé, là.
Arrête donc, toi.
Ouais. Après ça, des ponces de gin. Pour que les enfants dorment mieux. Il faisait ça à l'époque.
Et voyons, dans le biberon, toi.
Ah ouais, il va bien dormir. Ça marchait.
Il faut ce qu'il faut à la guerre comme à la guerre. OK, là, je suis en train de dire ce que... Okay. Ah, là, ça me raconte l'histoire. Dis-moi, c'est quoi, là? OK, je l'ai jamais.
Mouche de moutarde.
Mouche de moutarde. Mélangez environ 2 cuillères à thé pleines de moutarde en poudre, OK? Avec de la fécule de maïs ou de la farine.
Oui.
Humectez le mélange avec de l'eau froide,
mm-hmm.
parce que l'eau chaude, ça détruit les enzymes. Fait que c'est vraiment de l'eau froide. Placez la pâte sur un linge mince. OK? Déposez sur le thorax. Ben voyons donc, toi.
Ben oui.
Laissez la mouche de moutarde en place 10 à 30 minutes. Hein?
Ben oui. Puis il y en a qui finissaient grand brûlé parce qu'ils respectaient pas tout à fait la recette, de ce que je comprends. Là.
Mais c'est passé fort!
Ouais. Après ça, il y avait « mets ta que tu vas pogner la grippe ».
Ouais, mais ça, c'est un grand mythe encore à ce jour.
Il y a encore des gens qui disent ça.
Non, mais c'est vrai. Docteur Élise Berger-Pelletier nous l'a dit que tu peux pas attraper froid dehors. C'est un mythe que tu vas attraper la grippe parce que tu es aux frites. C'est pas vrai.
Ben, c'est ce que je disais.
OK, je pensais que tu me disais que c'était pas vrai. J'étais prête à me battre.
Mais il y a encore des gens... Ça va, Audrey?
J'ai mal à la tête, Yann. Ça va pas.
J'ai mal à la tête. J'ai pris du café. Et tu les ailles.
J'ai plus de patience.
Mon fils est un. Je vais essayer de t'épuiser jusqu'à 14h. Puis à 14h, tu vas rentrer avec Denis, tu vas le tuer.
Oui, je vais le coller malade. Ça va être la fin. Moi, tu vois, un truc de grand-mère qui fonctionne encore, selon moi, là, c'est pour les lendemains de brosse. En passant, je suis curieuse d'avoir les vôtres 88-971-1021. Mais nous, dans la famille, ça s'est passé les toasts à moutarde. Tu parlais de moutarde, nous autres, c'était les toasts à moutarde.
Ils vous faisaient manger des toasts à moutarde.
Oui. Quand, mettons, tu as bu un peu trop d'alcool, là, puis tu vas être frais comme une rose le lendemain, là. Tu manges une toast à moutarde avant de te coucher. Okay. Tu peux mettre un peu de beurre en dessous, c'est plus bon. Là. C'est vraiment délicieux.
Nous autres, là, c'était tout ce qui pouvait être gras. Ben, c'est d'ailleurs ce qui a fait la renommée de Ashton à 3h du matin quand on sortait des bars. Là. Je veux dire, il y avait une file. Oui. Des fois, il y avait 200-300 personnes au Ashton. Centre-ville de Québec, ça.
Quand il a fermé sa Grande Allée, là, j'étais en dépression.
Ouais. Grande Allée, lui, il est arrivé un petit peu plus tard. Fait qu'il a fait peut-être un peu plus
qui vient de fermer, toi, tu parles?
De ta génération sur Grande Allée. Mais celui-là qui vient de fermer au centre-ville de Québec, qui était dans l'ancien Maille-Saint-Roch, là. On était une bonne gang à se donner rendez-vous dans ce Ashton-là. Puis des fois, on pouvait passer 1h30, 2h de plus dans l'Ashton parce qu'on rencontrait des filles.
Ah, ben oui!
Vous étiez pas au bar, vous autres? Vous étiez où?
Ah, oh, mon doux, hein!
Puis on jasait, puis on avait bien du plaisir. Il y avait de la bataille, des fois, on regardait la bataille.
Je me suis déjà fait mettre dehors, moi, du Ashton.
Comment ça?
Sa grande allée. Parce que, tu sais, il y avait plusieurs... Il y avait à côté du Ashton, tu sais, au bout de la rue, comment ça s'appelle? Le Chitaouk, là?
Il y a quelqu'un qui dit « Audrey! » Excusez-moi, en passant, c'est une citation, donc ouvrons les guillemets. Faut être gelé en esti pour manger des toasts à moutarde.
Ah, oh, mais non, c'est
fermons
bon.
Fermons les guillemets. Des toasts à moutarde.
C'est tellement bon. Puis ce qu'il y a de meilleur encore, c'est croton-moutarde. Croton-moutarde,
oui. Toasts à moutarde.
C'est écœurant, Yann.
Je comprends que j'ai eu une enfance difficile, que les années où j'étais étudiant puis que je restais en chambre et ou en appartement, ça a été très difficile, mais je me suis jamais risqué sur les toasts à moutarde.
Mais je te jure, tu peux pas juger sans avoir essayé. Je te le jure.
J'ai déjà mangé des Kraft Dinner à l'eau. Oui, j'avais pas de lait. C'était non, j'avais pas assez d'argent pour le lait. Fait qu'il y avait la champlure. Fait qu'on a ouvert la champlure. J'ai mélangé mon petit truc qu'on dit être du fromage avec de l'eau.
C'est tout.
Puis j'ai mis ça.
Pas de beurre.
Ça goûtait quelque chose. J'avais pas d'argent, là. Il aurait fallu que je le vole.
En même temps, c'est-tu quoi? C'est pas si pire, ça, parce que les Kraft Dinner prêts à manger qui vendent en dépanneur, c'est de l'eau que tu mets dedans, dans le fond. Ouais. Fait que c'est pas la fin du monde.
Fait que c'est ça. Mais les lendemains de brosse, nous autres, on n'en avait pas tant parce qu'on allait
manger
des trucs qui étaient un petit peu plus gras, comme de la poutine. Il y en a qui trippent sur le McDo aussi à 3 h du matin. Puis ça a l'air que ça fonctionne aussi pour le déjeuner.
Ben,
quand
oui.
Tu te lèves vers midi, là, tu t'en vas chercher des trucs un petit peu plus gras, tu t'hydrates, puis ça va être mieux.
Mais les féculents, entre autres, que tu vas manger, ça absorbe, là, veux, veux pas. Là. Il y a quelqu'un qui nous dit, pour revenir à la caféine et les Tylenol ou Advil, là, il y a carrément des Tylenol qui se vendent avec caféine dedans pour dire à quel point c'est vrai puis ça marche.
Parce que ça te réveille un peu, je pense.
Ben, c'est sûr que la caféine réveille, mais c'est le fait que ça active, de ce que je comprends, le médicament. Puis là, si vous êtes médecin, corrigez-moi, là, je le suis pas du tout. Là. Dans les trucs de grand-mère, il y a Ruben sur le Twitch qui nous dit « Les oignons sous les pieds ». Il paraît que c'est une affaire qui fonctionne quand t'es malade.
Il faisait ça, puis il mettait des bas de laine par-dessus ça. Je me souviens que, tu sais, moi, je...
Ça va sentir fort.
Tu sais, les gens connaissent à quel point j'ai pas de perversité, là, et que ceux qui trippent sur les pieds me dégueulent dans la vie.
Ouais.
Je me souviens qu'il y a des gens qui me massait les pieds au Vicks quand j'étais jeune. Et sérieusement, il fallait que je morde dans mon oreiller pour pas lui donner des coups de pied d'en face.
Oh! Le pire, c'est que ça fait du bien, le Vicks. Le thorax, en dessous des pieds, là, c'est là que ça respire.
Ouais, mais il fallait que je morde l'oreiller pour pas lui donner des coups de pied d'en face.
T'aimais pas ça.
C'était épouvantable. Avec... C'est peut-être de là mon traumatisme. Quand quelqu'un dit, hey, moi, je trippe ses pieds, Yann, je trippe sur les pieds, montre-moi tes pieds. Peut-être pour ça, je capote un peu.
T'aimes pas ça parce que t'as des mauvais souvenirs. Dans les trucs de grand-mère aussi, quand t'as une vieille rue. J'ai jamais eu ça, une verrue. Ouais. Mais quand tu as une verrue, les pleurs de patates, t'as-tu déjà entendu ça?
Les pleurs de patates, quand j'ai une verrue.
Tu prends une pleure de patates, puis tu frottes la pleure de patates sur ta verrue. Okay. Et là, il y a un vieux truc qui dit qu'il faut que tu sortes dehors, puis t'attires par en arrière sans regarder où elle tombe.
OK.
Et ça aidera à faire disparaître.
Pour le
la
truc verrue. De patates, là, laisse-moi penser qu'il faut demander ça à Mark Hamilton. Les anciens trucs de grand-mère.
Ah,
là,
attends, je me prends une note,
on
c'est
va
bon,
demander
ça.
Ça à Mark Hamilton, qui est un microbiologiste, puis qui va être capable de nous dire si ça, ça peut fonctionner avec une patate puis ta verrue. Puis on va faire semblant qu'on n'a rien entendu sur le fait qu'il faut que tu sortes avec ta patate puis ta tire en arrière de toi.
Okay? Non, mais gars, je t'entraîne
parce qu'il
d'écrire à l'instant.
Jamais.
Fait que patate et verrue.
On me dit, Audrey, que le sexe enlève le mal de tête. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'hier chez vous, ça n'a pas brassé trop.
J'ai pas croisé mon conjoint hier.
Ah,
fait
voilà.
Que c'est sûr que je peux pas. Je m'en tirais de dire que ça a changé quelque chose.
Je sais
chose.
Pas. Est-ce qu'il y a des gens enceintes qui nous écrivent présentement sandwich toasté, concombre, moutarde, beurre, sel et poivre?
Mais non, mais là, ça attend. C'est comme un smoke meat. Bon, il manque la viande, là, mais t'as la base du smoke meat. C'est pas si pire comme mélange.
T'as même pas le smoke.
Non, t'as
pas
le smoke.
T'as pas le meat non plus.
Non, mais t'as.
Mais t'as raison, c'est comme un smoke meat.
Comme un smoke meat végétarien. Il y a des gens qui nous disent pour les maux de tête, puis ça, c'est un bon truc que je peux partager parce que je l'ai déjà essayé. C'est Stéphane qui nous dit ça. Il dit de mettre les mains ou les pieds dans l'eau super chaude parce que le sang est attiré vers les extrémités. Ça enlève la pression au niveau de la tête. Il paraît que ça fonctionne tempête, puis je l'avais déjà fait lors d'une migraine dans le bain à 2h du matin.
Ouais.
J'avais fait couler juste un fond avec de l'eau bien bouillante mes pieds dedans. Là. Ça avait aidé un peu.
Ça avait fonctionné.
Ça avait aidé un petit peu dans la catégorie, encore une fois, des
dans
trucs.
Dans le temps, il y avait un guérisseur qui s'appelait Vital Lemire. Et lui, te promet... on l'appelait l'homme au pouce magique. Et lui te promettait...
Ça sonne louche, ton affaire, là.
Ben non, c'est pas louche.
Ben non,
et lui te promettait de te guérir d'à peu près n'importe quoi si tu le rémunérais contre ses services.
OK, puis c'était quoi ses services, Yann?
Pour ses services. Bien, c'est l'homme au... c'est Vital Lemire, l'homme au pouce magique. Mm-hmm. Tu peux taper son nom.
Bien, j'ai déjà entendu parler de ça, mais j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi cet homme-là...
Bien, ça, mettons, on va y aller soft, là,
oui.
Parce qu'on est quand même le jour.
Oui, il est quand même juste 10h15 le matin.
Marceau le soir, c'est tantôt.
Le guérisseur.
Et oui, Vital Lemire, c'était, il se disait guérisseur.
Il est mort en 2019, lui.
Et il y a des gens qui payaient pour avoir accès à ses services de son fameux pouce magique.
Mm-hmm.
Et il promettait à des gens des trucs complètement débiles. D'ailleurs, il était accusé d'agression sexuelle.
Absolument.
Parce qu'il promettait à des gens de guérir... Mettons que t'avais le sida, là. T'allais voir Vital, puis il disait, ben moi, avec mon petit pouce magique, je t'enfonce ça là, puis je vais te guérir du sida. Il y a des gens qui faisaient confiance à Vital.
Il a été enfermé dans mon bout à Port-Cartier.
Tu vois?
C'est là qu'il est mort, d'ailleurs. C'est tout qu'un cas, cet homme.
Ouais.
Je ne ferais pas confiance à ce genre d'individu pour m'aider, par exemple.
Mais à quel point t'es sans ressources pour aller voir le gars qui est amputé de ses doigts, puis il reste juste
c'est
un
triste,
pouce?
C'est triste, par exemple. Non, mais il y a des gens qui sont hyper croyants, qui ont foi d'à peu près tout, puis qui sont désespérés. T'sais, honnêtement, j'ai de la misère à... Ben, j'ai de la misère à juger. Je juge avec du recul. Mais j'ai de la misère à juger les gens qui sont tellement vulnérables qui en viennent à être dans une chambre d'écho puis qui en viennent à croire ce genre d'individu-là.
Ah ouais, puis il arrive des affaires... Avec les gens vulnérables, il arrive des affaires très, très weird. Hey, ben bref, j'espère que ton mal de tête se guérira. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir...
On a le plaisir de recevoir Nancy Doyon, coach familial SOS Nancy. Puis le sujet d'aujourd'hui me stimule beaucoup parce qu'il me rappelle des souvenirs. On va jaser de comment aborder, entre autres, l'éthique sexuelle avec nos ados, parler de consentement, fidélité, le fameux ghosting. On va rester dans le thème des ados aussi, puis parler des premiers amours, de l'initiation à l'alcool, de la gestion des émotions, des hormones. Fait que si vous avez des enfants qui sont ados au moment où on se parle, ou si vous avez simplement de bons souvenirs par rapport à l'ado que vous étiez, ben c'est de ça qu'on va jaser avec Nancy aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu en studio.
Ben moi, je l'ai eu dans Marceau Soir la semaine passée.
Tu l'as eu dans Marceau Soir, chanceux.
Ça a été
chanceux.
Une émission qui a fait très, très réagir. Là.
Elle aide, je ne l'ai pas vu depuis avant Noël, moi.
Elle aide énormément de gens là, qui sont aux prises avec des problématiques familiales.
Avec leurs enfants. Ouais, mais
je ne vais pas
toi,
dire
t'as
aux prises
aidé.
Avec tes enfants, parce que moi, à tous les jours, je suis aux prises avec mes enfants. Mais
non, mais elle a des bons trucs.
Elle m'a aidé sur plusieurs affaires. Puis une chose hyper banale, tu sais, des fois, tu jases avec quelqu'un, c'est son métier, puis là, tu lui poses une question, puis tu dis, hey, là, tu sais, sérieux, elle doit avoir 3 bacs, 10 doctorats, là, elle va me trouver la réponse que je m'attendais. Ben, c'est pas ça. Elle utilise toujours des techniques qui sont super simples, qui sont éprouvées. Elle a utilisé ces techniques-là, puis elle a vu que ça fonctionnait aussi. J'avais un petit gars, moi, qui tripait sur les poissons qui étaient dans le lac. Pour l'histoire, je vais vous dire que c'était des poissons normales, mais mon lac était infesté en bosse de poissons rouges. Mais mon gars, lui, il s'en foutait. C'était des poissons rouges, puis il avait 2-3 ans. Puis il tripait toujours de s'approcher près du lac pour regarder les poissons rouges. Puis il se méfiait jamais. Puis moi, j'étais terrorisé par le lac versus mes jeunes enfants.
Mais oui.
Parce que j'ai été élevé au centre-ville de Québec, des lacs, il n'y en avait pas, à part quand il pleuvait.
Fait que là, on se baignait.
C'est pas vrai. Et mon gars, il approchait tout le temps le lac, puis ça me tuait. À chaque fois, j'étais là, c'est là je le perds. Viens ici. Puis là, j'avais l'impression d'être rendu un père trop...
trop intense, étouffant, là. Ouais.
Parce qu'il y a le lac, puis j'étais nerveux, puis elle m'a dit, Yann...
Papa poule.
Tu veux-tu te donner un truc? J'ai dit, oui, vas-y, parce que moi, je suis sans ressources par rapport au lac à côté de chez nous. Elle dit, laisse-le tomber dedans.
Il n'y aura plus.
Ben non, je peux pas faire ça. Elle dit oui. Elle dit supervise sa chute dans le lac, puis laisse-les avoir peur, laisse-les avoir froid, puis va le chercher. Ben c'est arrivé un soir d'été où j'étais avec mon ancien beau-frère. On se faisait un feu dehors, puis on prenait de la bière. Puis le gars, il jouait dehors. Tu sais, il était peut-être 19h, 20h le soir. Et à un moment donné, le petit Isaac, qui avait 2 ans à peu près, il botte son ballon, puis son ballon, il s'en va dans la pente du lac, puis il tombe juste sur le bord de l'eau. Fait qu'Isaac, il décide de descendre, mais à partir du moment où il y a la pente, lui, tu comprends, il n'est pas assez fort pour se retenir, fait qu'il commence à courir dans la pente. Puis là, mon beau-frère dit, « Mais Yann, c'est parce que tu y vas pas? » J'ai dit, « Non, je vais attendre. » Puis j'ai attendu qu'il tombe à pleine face dans l'eau, qu'il se lève, parce que c'était pas assez creux, là, puis d'y voir la face, là. Puis après ça, je suis parti à courir, puis je l'ai sorti, puis je te l'avais dit, Isaac, de ne pas t'approcher du lac. Puis ce jour-là, c'est SOS Nancy qui m'avait donné ce truc-là, ce jour-là, il s'est plus jamais rapproché du lac tant aussi longtemps qu'il ne nous demandait pas la permission d'y aller avec.
C'est fou pareil, hein?
C'était simple, mais moi, j'étais terrorisé.
Mais c'est le principe de « touche pas, c'est chaud », mais tant que tu touches pas, tu le sais pas, puis tu sais...
Fait qu'elle m'a fait économiser à peu près 3 000 $ de psychologue.
Ouais.
Par ces petits trucs-là, puis SOS Nancy, c'est une spéciale comme ça, là. Elle est excellente, donc on va l'entendre dès les prochaines minutes. 10h18, je veux te parler de ça, puis je veux que les auditeurs participent avec nous. T'as-tu déjà volé quelque chose, toi?
Mon Dieu, j'ai déjà... sans faire exprès, une paire de bobettes.
Une paire de bobettes?
Quand j'étais plus jeune, sans faire exprès.
Sans faire exprès.
Oui, mais je t'allais la reporter, j'étais tellement mal.
T'as volé une bobette à qui?
Ben non, mais j'étais jeune, adolescente, puis je magasinais à Rosemère.
T'étais ado. OK, t'as volé dans une boutique.
Oui. Mais j'ai jamais volé à quelqu'un, là.
418-971-1021. Avez-vous déjà volé? Que ce soit un petit vol ou un gros vol, dénoncez-vous. Puis, sachez que tout ça sera dans l'anonymat. Moi, je me souviens que les oursons gommis là, qu'on pouvait acheter au dépanneur...
Ah, les gummy bears, oui.
On avait une pièce, on pouvait en avoir 100. Puis j'y allais comme aveuglette, là.
C'était une scène, le gommi?
Ouais, c'était une scène, le gommi. Ouais, je sais.
C'était le bon vieux temps,
je
ça?
Je sonne d'une autre époque, là.
Oh, mon Dieu!
Puis, by the way, le gin tonic était à 3 $.
Ça passe!
Aussi!
Et moi, je suis pas faite pour vivre en 2025,
là. À gin tonic, 16-17 $ avec le pourboire sur Grande Allée, là.
C'est capoté.
Mon gin tonic, il était à 3 $. Fait que je suis content de pas être alcoolique, parce que sinon, je serais ruiné. Mais ça, j'ai fait ça. C'était ça, j'ai fait ça.
T'as volé des gommis.
Après ça, je m'excuse aussi, la maison Columbia y a passé.
Ah ouais?
Oui. Yann Marceau. Yannick Marceau avec un N. Yannick Marceau avec 2 N.
Oh mon Dieu. Okay, c'était intentionnel, cela.
Y. Point Marceau.
Oh là là.
Oui.
Yannick.
Ya, espace, Nick. C'était tout moi.
OK, mais ça, tu volais intentionnellement. C'était pas juste l'enfant qui vole un paquet de gomme parce qu'il sait pas que...
Il était calme, il te faisait choisir des CD, puis là, des CD ou des cassettes, je me rappelle plus trop. Puis là, t'es commandé, t'es envoyé, puis t'es repayé plus. Puis
ouais.
Il revenait pas plus tard pour te dire « Hey, tu nous dois de l'argent. » Fait que bref,
t'en
oui,
as profité.
Maison Columbia a passé au cash. Puis toi, t'as juste volé une paire de bobettes.
Mais, honnêtement, peut-être, quand j'étais jeune, j'ai...
T'avais quel âge?
J'avais comme 15 ans, là. J'étais 14-15 ans.
Tu t'es dit, c'est là que j'achète mon premier string.
Oui, c'était dans ces fameux premiers magasinages, mais j'avais vraiment pas fait exprès, par exemple. Tu sais, quand tu jases, t'as de quoi dans les mains, t'as ton ciel, tes affaires, tu sors, tu sais. J'étais retournée le porter. Probablement que plus jeune, ma mère pourrait témoigner que j'ai dû voler des paquets de gomme ou des affaires de même, là.
Ouais.
Mais tu sais, jeune de même, ton parent te ramène puis te dit, il faut de l'argent pour payer, fait qu'il va t'excuser, là, t'excuses, tu leur fais plus.
Moi, c'est encore jamais arrivé à mes gars.
Ils n'ont jamais rien volé encore.
Puis pourtant, je suis très alerte là-dessus.
Oh,
c'est
ouais.
Jamais encore arrivé à mes gars.
Ben tant mieux.
Mais tous les enfants ont déjà volé. Fait que
as-tu eu la discussion avec eux?
C'est peut-être moi qui ai passé vite. Non, je leur parle pas de vol. J'ai tout le temps l'impression que je vais leur induire quelque chose dans la tête.
Ah ouais.
Ah ouais, mon père a déjà volé des oursons gommis au dépanneur.
Tu leur dis pas que tu l'as fait.
Fait que quand je vais me faire pogner, ils vont dire « Oui, mais papa, toi ici, tu l'as fait. »
Mais c'est ça, faut pas que tu confies que tu l'as fait.
Exact.
Faut juste que tu dises que c'est mal.
Exact.
Voler, c'est mal. On a quand même une couple de textos qui entrent, là. Il y a des gens qui disent que les fameux douzaines d'épis de maïs que tout le monde dit à la caissière qu'il y en a 13, mais en réalité, il y en a 14-15, il y en a volé une couple de plus des épis de maïs.
Est-ce que vous donnez toujours le bon code des tomates à l'épicerie?
Ah, ça, c'est une bonne question. Ou les bonnes pommes?
Tomates biologiques ou tomates
Ah, ben regarde, tu vois, j'ai déjà volé. J'ai déjà volé intentionnellement parce que moi, je prends des pommes, plein de différentes pommes, puis c'est tout pas le même code, mais j'avais juste pris un code, fait que peut-être que j'ai volé sans m'en rendre compte.
OK, mais c'était sans t'en rendre compte.
Ça, c'est pour ma bonne conscience, Yann. Laisse-moi vivre tranquille. Mais peut-être que dans le fond, c'est moi qui ont crossé. T'sais, on le sait pas. Là. Peut-être que les pommes que j'ai mises valaient moins cher, puis ouais. Ils m'ont fait payer la plus chère.
Ouais, les policiers entendent souvent ça comme, ouais, hein? comme raison.
On est tous coupables.
Puis les auditeurs disent quoi? Qu'est-ce qu'ils ont déjà volé?
Il y en a qui sont d'accord avec toi. Toute une génération qui a fourré... La maison Columbia.
Il y a des gens qui disent « Moi, toutes les tomates, c'est tel code. Moi, toutes les bananes, c'est 411. »
Ah, tu vois, ici, on a des gens qui nous disent « Dans notre petit village de Charlevoix, genre en 2000, on rentrait 3-4 flots dans le dépanneur.
Ouais.
La moitié demandait à propriétaire et la caissière d'aller voir vers les petites boucheries. Puis les deux autres allaient voler 2-3 paquets d'export à bleu.
Hey, » j'ai déjà volé un magazine de porn.
Ah!
Au dépanneur. Oui,
t'as
parce
fait
que
ça.
Nous autres, il y avait des magazines de porn qui étaient dans l'étalage, mais c'est l'étalage le plus haut. Puis on était peut-être comme 5-6 à rentrer dans le dépanneur. Puis je me suis dit, hey, ça, faut que j'amène ça. Je voyais comme être le king. Puis j'en ai volé un. Hey, t'as raison, je me rappelais plus de ça.
T'avais. Oh, ouais.
C'est un genre de Playboy, là.
C'est-tu parce que tout ce que t'avais à t'apporter, c'était les magazines Sears. Puis à un moment donné, tu t'es dit qu'il fallait que tu upgrades un peu.
Non, j'ai même pas fait ça pour mon utilisation personnelle. Parce que les magazines Sears. Ben, à un moment donné, les pages étaient tout collées, là. Mais ce que je voulais faire, c'est d'être comme le plus hot.
Ouais, toi, t'avais accès à ça.
Ouais. Fait que j'avais allongé mon bras, j'avais pris le magazine, je l'ai mis dans mon manteau, puis j'avais avoir 10 ans à l'époque, 10-11 ans. Puis quand on est arrivé.
Les petits gars faisaient
ça. Quand on est arrivé au parc, on était peut-être à peu près une quinzaine autour du magazine.
Voyons donc, ouais. Ça fait penser à la scène dans Ricardo Troggi, c'est drôle, je pensais pas que réellement ça avait existé, ces affaires-là.
Il y a Will qui dit moi, les tomates à 4$, ils se transforment soudainement à la balance à des tomates à 69 cents.
Ah ouais, hein?
Ouais.
Tabarnouche. Là, avec les caisses automatiques, en plus, c'est-tu plus facile ou moins facile?
Ben, je le sais pas.
Parce que ça calcule le poids.
Sachez qu'à la gang, on se tire un peu dans le pied quand on fait ça, parce que le marchand n'est pas là pour perdre de l'argent. C'est des entrepreneurs. Donc, nécessairement, s'il voit qu'il y a un 30% de vol supplémentaire dans son année, il va augmenter ses prix pour combler ce 30% de vol qu'il y a eu dans la dernière année. Puis pourquoi je te parle de ça? C'est que la SAC se dit victime de vol à l'étalage. En 2021-2022, combien de bouteilles à la grandeur du Québec auraient été dérobées?
En 2021-2022, je vais te dire 400, 500.
C'est-tu beaucoup ça ou c'est pas beaucoup?
Ben,
400, 500?
Moi, je trouve que c'est beaucoup, mais j'imagine que c'est pas beaucoup.
608 bouteilles qui ont été volées en 2021-2022 et 2024... Il faut dire que les 608 bouteilles, là, ça a une valeur de 33 000 $. 2024, deux ans plus tard, ça a doublé, Audrey.
Doublé?
1226 bouteilles qui ont été dérobées pour une valeur de 64 000 $. Donc, c'est une augmentation de 93% à peu près. Et ce qui est assez particulier, c'est que quiconque est en affaires, là, mettons que tu as un commerce de détail, OK? On a des statistiques, nous autres. Ben, je parle comme si j'avais un commerce de détail, là, mais on a des statistiques qui sont très claires qu'à la grandeur du Québec, quand tu as du vol à l'étalage, c'est 30% que ça vient directement de vol à l'interne de ton staff.
Arrête donc. Fait que des gens que toi t'emploies qui sont malhonnêtes...
Sur 10 voleurs qui rentrent dans ton commerce...
C'est ton monde.
T'en as 3 qui travaillent pour toi.
C'est capoté pareil, ça, hein? Il nous disait ça quand je travaillais au McDo, sauf que nous autres, on avait la... Ben, dans le fond, j'ai volé beaucoup au McDo, pour répondre à ta question de départ. Mais tu sais, je me disais que c'était des wastes, qu'on allait les perdre de toute manière. Mais ça m'épate pas ce que tu me dis, parce que je me souviens quand je travaillais dans un bar, entre autres, un moment donné, je travaillais au vestiaire, puis la fille avec qui je travaillais avait tendance à ramasser un peu plus d'argent en caisse pour le pourboire qui était censé.
Elle se payait en premier.
Oui. Oui, parce qu'il fallait splitter le reste. Fait que, à nous payer en premier, je devrais dire même.
Ouais.
Ouais.
Moi, j'étais dans la restauration.
Ça m'épate pas ce que tu dis.
Puis on finalement. Devait donner des cotes. Les serveurs devaient donner des cotes au suiteur, la personne qui discute avec le chef cuisinier, puis après ça, prend ton assiette, puis va le porter à table. Ça, c'est pas le serveur, c'est le suiteur. Fait que le serveur, moi, j'ai été serveur et j'ai été suiteur, mais à la fin, j'étais serveur dans ce restaurant-là et je donnais des cotes. C'était un genre de 1% de mémoire. Fait que si j'avais vendu 1000$, ben c'était 10$ que je donnais à la suite.
Okay.
Ces enveloppes-là, à la fin de la soirée, devaient aller dans le bureau du gérant. Puis très souvent, les suiteurs nous disaient « Hey, on n'a pas eu notre cote. On n'a pas eu notre cote. » C'était le gérant qui volait la cote des suiteurs.
Ah, seigneur! Ça, c'est lourd, par exemple.
Ouais. Puis les boss boys, eux autres, ils étaient là jusqu'à la fin de la soirée, ce qui faisait en sorte que c'est eux autres qui collectaient eux-mêmes leur argent. Fait que personne ne pouvait les voler. Mais le gérant de l'époque volait l'argent de ses propres employés.
Crosseur.
Puis là, le suiteur, là, il ne gagnait pas 20$ de l'heure. Là. Je veux dire, c'était pas super payé à l'époque. Puis ce gérant-là, là, je veux pas identifier personne, fait que je vais rester très vague dans mes affaires. Mais à un moment donné, il était tellement habitué de voler qu'il faisait fi des caméras. Fait qu'il est allé dans la réserve d'alcool avec son sac à dos, puis il rentrait des bouteilles de vin dans son sac à dos, fermait le sac à dos, puis après ça, partait à la maison tout simplement, puis se montait une réserve de vin incroyable. Puis là, il y a des gens qui m'écrivent qu'ils l'ont déjà reconnu.
Ben voyons donc. Puis il s'est fait pogner, j'imagine, si on en parle de même aujourd'hui. Là.
Il s'est fait pogner par un ancien suiteur qui est devenu gérant par la suite, qui était persuadé que c'était lui qui volait. Fait qu'il s'est dit « je vais me mettre sur son cas ». Fait qu'à la fin de soirée, il surveillait tout le temps les images vidéo partout, les enveloppes, et tu peux m'emmener le pogner dans le frigidaire. Dans le frigidaire à alcool. Puis il a fait sortir les images, puis il a confronté le patron qui lui avait toujours nié que ce gars-là aurait pu être un voleur.
Aïe,
puis ils l'ont crissé dehors.
Ben avec raison.
Mais il volait tout le monde. Là.
Moi, tu vois, c'est une chose pour laquelle je suis reconnaissante quand je travaillais dans un bar. C'est nous autres qui s'occupaient de calculer à la fin de la soirée l'argent qu'on avait fait, le pourboire qui nous revenait. Fait qu'on était en contrôle de l'argent avant de mettre ces enveloppes-là et ces montants-là sur le bureau du boss. Fait qu'au moins, on avait le contrôle de ce qui nous revenait dans nos poches, tu sais.
Ouais, Mathieu qui dit « Je comprends pas comment ils font pour voler à sac. Ça semble pas facile de se mettre une bouteille dans les shorts. Ouais, mais dans ton manteau épais, là. »
Ah,
c'est assez
oui,
ample,
hiver,
le manteau d'hiver.
Là,
ça
oui.
doit être assez facile. Quand tu es un employé, bon, je ne vais pas donner de trucs, là, mais ça passe souvent par les poubelles.
Oui.
Tu sais, le gérant d'un des premiers restaurants où je travaillais, c'était un restaurant grec. Et lui, il allait faire toujours à la fin de soirée son tour ou les poubelles, puis ça arrivait qu'il trouvait du stock.
Puis il volait de cette façon-là. Mais c'est
non,
du
non,
vol
non, non, il
quand...
ramenait dans le restaurant. C'est parce que lui, il savait comment ça fonctionnait.
Ah oh, ouais, OK.
Il savait qu'il y avait des employés qui volaient, fait qu'il allait chercher le stock où il pensait qu'il pouvait aller, ouais. J'ai un de mes chums qui est rendu directeur général d'une ville dans l'est du Québec. Lui, il travaillait pour une grosse chaîne de restaurants. Il était directeur général de 3-4 restaurants à Québec. Et à un moment donné, il se fait inviter dans un party. Invité, mais pas formellement. Là. C'est hey, tous les invités de ce restaurant-là. Tous les employés de ce restaurant-là peuvent se présenter au party de ce chef cuisinier-là.
OK.
Fait que il vient jouer au hockey avec nous autres. Après ça, on dit hey, où tu t'en vas? Il dit ah, je m'en vais dans un party. Puis le lendemain, on avait 2 games en ligne. Puis là, il dit vous savez pas ce qui s'est passé? Je me suis présenté là. Oh, tiens, il y a donc bien une belle machine à popcorn à ce gars-là. OK, c'est notre ancienne machine à popcorn qui dormait dans la cave, qui était entreposée. Il semble les verres de bière, ils sont OK.
Ben voyons,
c'est pas mal
toi.
Nos verres de bière.
C'était fait un...
Les ustensiles, tu sais, quiconque a des ustensiles commerciaux à la maison, là, t'es capable de les différencier assez facilement. C'est tout le temps des ustensiles qui sont très chers parce qu'on veut que ça dure longtemps. On veut pas que ça plie d'un bord et que ça plie de l'autre. Même affaire pour les verres de vin. C'est des verres de qualité. Là. Je pense que les verres de vin que nous autres, on avait sur la Grande Allée puis sur le boulevard Laurier, ils étaient autour d'à peu près, je pense que c'était 15$ commercial, le verre de vin.
Tabarnouche.
Fait que lui est arrivé, puis tout le stock de l'employé, c'était du stock qui volait à tous les soirs dans le restaurant, puis c'était le chef cuisinier.
C'est capoté, hein? Mais ça, par exemple, tu vois, c'est quelque chose qui est très commun. Tu sais, tu demandais tantôt aux auditeurs, avez-vous déjà volé? On connaît tout du monde, là, des amis qui ont volé des shooters ou des verres à bière dans une micro ou qui se sont fait un stock comme ça, puis qu'à la maison, c'est que des verres de différents restaurants qui ont été volés, là.
Ouais. Souvent, quand tu travaillais dans les restaurants, puis c'était plus tranquille, tu avais une certaine disposition des trucs, là, mettons, les sucriers. avec sel, poivre.
Ouais.
Puis il y avait des tables qui ne servaient pas de la soirée. Souvent, c'était des tables un peu de marre qui étaient proches des toilettes, puis on les donnait à personne. Mais il y avait quand même le fameux sucrier, puis le sel, puis le poivre. Et t'arrivais, puis il manquait, tu sais, le petit sucre brun, là,
oui.
qui est un peu plus de qualité. Là.
Oui.
Bon, il n'y a personne qui avait été là ce soir-là, mais le sucre brun de qualité, les 10, là,
il
avait été enlevé.
C'est capoté pareil. Hein?
C'est cheap, là.
Ben oui. Mais c'est là, c'est parce que là, tu me fais penser à plein d'affaires, tu sais. C'est parce que ça dépend qu'est-ce que tu rentres dans la catégorie vol. C'est
ouais. Les policiers entendent ça souvent.
Oui, non,
aussi.
Non, mais attends, c'est juste qu'on n'y pense pas. Mais c'est que là, tu me dis ça, puis ça me fait penser aux gens qui vont voler les sachets de ketchup puis de la mayo, tu sais, qui vont en demander comme full plus, mettons, au Ashton pour ne pas le nommer, puis qui vont ramener ça à la maison,
oui.
tu sais. Ou...
Pourquoi tu penses que c'est plus vraiment laissé à la disposition des gens?
Faut que tu le demandes, oui.
C'est qu'il y en a qui partaient avec une cinquantaine de trucs de maillot, là.
Oui.
Puis ils amenaient ça à la maison.
Ou les copes de lait à café. Ouais. Ou les...
Pourquoi, Audrey, on barre les places où on met le papier de toilette? Parce qu'il y a des gens qui partaient avec les rouleaux.
Aïe, aïe. Hey, c'est bon chaud, là. Hey, mais tu sais, c'est quelque chose à quoi j'ai jamais pensé, mais maintenant que tu parles de ces petites banalités-là, on dirait que ça fait tellement de sens.
Quelqu'un qui dit « Salut, je travaillais dans une grande chaîne de restaurants à Québec et c'est moi qui closais. Je me faisais constamment des lunchs pour la semaine. J'amenais des sacs bien pleins d'ailes de poulet à la maison. C'était le snack à chaque soir. J'avais un lunch pour l'école le lendemain. » Mais en même temps, tu voles ton employeur.
Oui, c'est ça.
Tu
c'est
voles
pas,
la personne qui t'aide à mettre de la
c'est
bouffe
top,
sur la table.
Non,
là.
C'est ça. Ça c'est marche pas. Top, pas là. Ça marche pas pendant tout. Ah, c'est drôle de vouloir.
OK, 10h32. Nous autres, on s'en va en musique avec Sarah Dufour, Smile d'en face. Et après ça, ben, SOS Nancy s'en vient avec nous dans les prochaines secondes. 10h43, quel plaisir de la recevoir en studio. J'ai parlé avec elle la semaine dernière dans Mars au soir et ça a été un hit cette émission-là. Puis il y a des dossiers dans l'actualité qui nous font penser qu'on doit peut-être parler de ce dossier-là avec elle. Son nom, c'est Nancy Doyon et elle est coach familiale. On l'appelle Madame SOS, SOS Nancy. Comment ça va, Madame SOS?
Ben, ça va très bien.
Très content de te jaser. T'as pas eu trop de misère à t'en venir, les neiges à plein ciel sur Québec?
Bah, non, ça c'est de la neigeouille.
La neigeouille?
La neigeouille.
J'aime donc bien ça. Je vais garder ça dans mon vocabulaire.
C'est ça, de la neigeouille. Il y a de la neigeouille puis des tempêtes. Ah oui, il y a des tempêtes, il y a des tempêtes.
Ouais.
C'était
clair. Ouais. Hey, dans l'actualité, il y a un procès qui se déroule au Palais de justice de Québec, le procès de Dominique Laroche. La famille Laroche, tout le monde connaissait ça. Là, au lac Beauport, c'est tout du bon monde. Finalement, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être un mouton noir dans la famille qui avait fait des choses qui étaient très répréhensibles. Jusqu'à maintenant, le gars n'a pas été déclaré coupable, donc on va parler de toute cette histoire-là au conditionnel, mais il n'en demeure pas moins que c'est assez particulier. Ça touche une jeune fille qui, au départ, avait 13 ans. Aujourd'hui, cette dame-là est autour de 30 ans. Puis, il y a une plainte qui a été déposée. On va parler de l'histoire au grand complet. C'est qu'il aurait agressé sexuellement une jeune fille qui allait chez eux régulièrement. Mm-hmm. Une jeune fille de 13 ans avec qui il aurait entretenu une relation, entre guillemets, amoureuse, qui est un peu illégale, là. Ben, en fait,
pas mal
illégale. Et hier, ce qui m'avait flabbergasté, c'est qu'elle a dit que Dominique Laroche avait réussi à avoir des relations sexuelles ou aurait réussi à avoir des relations sexuelles avec elle sans contrainte. Ce qui me laisse présager qu'il y avait beaucoup de choses psychologiques dans leur relation. C'était une façon de faire qui est très particulière. T'sais, on parle beaucoup d'éthique sexuelle avec nos ados, consentement, fidélité et tout ça. Et je me suis dit, faut parler de ça avec SOS Nancy. Puis ce qui est le plus particulier, c'est que sans l'aide de son nouveau conjoint, elle n'aurait jamais porté plainte contre Dominique Laroche parce qu'elle éprouvait encore des sentiments. On ne peut pas appeler ça des sentiments amoureux, mais j'imagine qu'elle le voyait comme un modèle familial, un modèle paternel. Ça semblait être sa deuxième famille. Et le conjoint, lorsqu'il était dans un party justement avec Laroche, lui, il avait sa propre fille qui était là, qui n'avait pas encore 18 ans. Et Laroche lui aurait dit « Dommage que ta fille n'ait pas encore 18 ans ». En soulignant que lui, ça ferait bien son affaire, sa fille, alors que le gars est autour de 50-60 ans. Et lui, qui avait obtenu les confessions de sa conjointe comme quoi lui l'agressait sexuellement depuis 13 ans, a décidé d'appeler la DPJ. Puis je salue ce gars-là, soit dit en passant, il a fait les bonnes choses. Là. La victime, elle doit prendre le temps que ça prend pour porter plainte. Puis là, visiblement, c'était le temps de le faire. Mais lui, il a appelé la DPJ en disant « Moi, ce gars-là, je considère que c'est un prédateur sexuel. Commencez à vous mêler à sa vie. » Puis la DPJ a commencé à faire enquête. La victime a été rencontrée. Elle a avoué qu'effectivement, il l'aurait agressée depuis l'âge de 13 ans. Tu sais, c'est proche de chez nous. On entend ça, là. Ça se déroule en Europe. On dit, ouais, il y a des fous, hein. On entend ça aux États-Unis. Ouais, il y a des fous aux États-Unis. Là, ça se serait produit, tous ces trucs-là, à Lac-Beauport. Puis je me suis dit, faut en parler avec SOS Nancy. Comment on aborde ce genre de situation-là avec nos enfants?
En tout cas, je trouve que le premier élément, c'est de constater à quel point nos jeunes, dans le fond, ils sont vulnérables. Juste avant l'entrevue, là, quand j'attendais, je répondais justement à quelqu'un. J'ai un groupe, moi, qui s'appelle Héros de nos enfants. Les gens demandent des conseils là-dessus, puis bon, échangent des trucs. Et j'ai une dame qui disait, bon, ben tu sais, moi, je surveille le téléphone cellulaire de mon jeune de 12 ans, puis ça l'insulte. Et là, tu avais des gens qui disaient, non, mais il faudrait que tu lui fasses confiance, c'est son intimité. Puis là, je disais, ah ben non. Comme parents, on se doit de surveiller ce qui se passe parce que nos jeunes, ils sont vulnérables et crédules. Et tu sais, dans cette situation-là, quand on parle d'un écart d'âge de quelqu'un qui a, mettons, 45 ans avec une jeune fille de 13 ans...
C'est à peu près ça, hein? 13 ans, 45 ans, puis c'est à ce moment-là qu'il aurait eu sa première relation sexuelle. Relation sexuelle anale?
Oh boy!
Pour une jeune fille de 13 ans, sa première relation, c'est avec un homme de cet âge-là, puis une relation anale. J'écoutais Judith Desmeules, qui était avec Denis Gravel. J'étais dans mon char, puis je me disais... C'est atroce qu'elle a vécu, cette personne-là.
Pauvre cocotte. Tu sais, puis on parle de pédophilie, là. Tu sais, c'est de la pédophilie. Quand une personne de 40 ans s'intéresse à une jeune fille de 13, 14, 15 ans, c'est de la pédophilie.
Elle n'est pas encore formée.
Mais peu importe, même si elle était formée, là, admettons qu'elle aurait quand même un corps de femme, peu importe, c'est toujours bien une jeune fille qui jouait à Barbie il n'y a pas si longtemps, puis qui trippe avec des amis sur TikTok. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Je veux dire, au niveau de la maturité émotionnelle, une jeune fille de 13, 14, 15 ans n'a clairement pas la maturité de quelqu'un qui a 40. Là.
Non, comment ça se
Ben c'est ça. Et quand ça t'intéresse, quand tu es attiré par un ou une enfant de cet âge-là, parce que c'est des enfants, là, on parle de pédophilie. Et oui, nos jeunes, ils sont vulnérables. Tu sais, on parle, admettons, peut-être d'une jeune fille qui est en plein éveil sexuel, qui est dans ses tripes d'amour romantique. Et là, t'as une personnalité connue qui paraît bien, puis qui est séduisant et qui lui présente, qui la manipule.
Ça peut être le manque de modèle masculin dans la vie de cette jeune fille-là qui a fait en sorte que la première personne qui a semblé être un modèle masculin pour elle, un père qu'elle n'aurait peut-être jamais eu. Tu sais, je divague un peu, mais elle se dit, attends un peu, là, lui, il est en train de bien agir avec moi, il me complimente, il m'encourage dans tout ce que je fais.
C'est ça.
Fait que là, je reçois de l'amour, puis là, lui, il veut d'autres choses. Fait que pour continuer à recevoir de l'amour, je vais lui donner d'autres choses. Ça peut-être être ça, le thinking?
Ça peut, mais tu sais, je veux dire, ça peut être une des mille raisons pour lesquelles une jeune fille peut être vulnérable dans ces situations-là, mais
j'interprétais un manque de confiance. Tu sais, quand t'es jeune adolescente comme ça, surtout aujourd'hui, parce que moi, à 13 ans, je joue encore au Barbie. J'ai l'impression qu'en 2025, à 13 ans, justement, t'es déjà sur les réseaux sociaux, tu t'habilles déjà comme t'as envie de t'habiller, puis t'es déjà une adolescente. J'ai comme le sentiment qu'il y a peut-être l'effet écoute, on sait pas c'est qui, je sais pas comment se sentait, mais à 13 ans, est-ce qu'elle était acceptée à l'école? Est-ce qu'elle se sentait belle pour les petits garçons de son âge? Est-ce que, tu sais, je me dis, il y a tout ça qui joue.
Mais écoute, ça peut être tellement plus... Ça peut être une jeune fille qui
on va spécule bien. En passant.
Moi, j'ai vraiment quelqu'un dans mon entourage qui a été séduite par son professeur de mathématiques au secondaire. Alors qu'elle avait à peu près 14-15 ans, justement, puis le monsieur à peu près une trentaine d'années, tu sais. Puis c'était une fille qui était populaire, qui avait, tu sais, je veux dire, avait pas de problème en particulier, mais là, il y a quelqu'un plus âgé, séduisant, intéressant, qui la fait sentir wow, qui lui dit qu'elle était, qu'elle a une maturité exceptionnelle. Justement, la jeune fille, à ce moment-là, elle, les gars de son âge, elle les trouvait un peu cave. Et là, ben, tu sais, elle jase de spiritualité avec le gars, puis tout ça. Mmh. Puis écoute, elle est tombée amoureuse.
On était effectivement cave à l'époque.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, elle est tombée amoureuse de cet homme-là, là. Et cet homme-là, ben, effectivement, puis là, ben, écoute, la situation de la, avec la famille Larocque, on ne sait pas, là, mais tu sais, je... La petite est peut-être tombée amoureuse. Tu sais, à 13 ans, on a le cœur, tu sais, on rêve d'amour romantique. Fait que si le manipulateur nous fait sentir qu'on est extraordinaire, puis qu'il nous aime, puis qu'il se peut plus, puis qu'il pense à nous à temps plein, ben c'est sûr que tu peux facilement tomber dans le panneau.
Ouais. Comment j'aborde la situation avec mon enfant? Moi, j'ai deux gars, fait que tu sais, j'ai peut-être été d'une autre façon, puis il y avait beaucoup d'humour dans nos affaires, là, tellement que mes gars me disent « Hey, regarde, papa, c'est un pédo-van, c'est écrit « Free Candy » sur la van. Comment on aborde ça de façon correcte avec nos enfants, la sexualité à leur âge, avec d'autres enfants de leur âge, je dis enfants, mais 13, 14, 15, 16, 17 ans, là, exemple. Faut-tu le faire?
Ben oui.
Faut-tu leur mentionner que ça se peut qu'il y ait des gens qui soient mal intentionnés, qui sont des adultes, qui s'intéressent à eux? Je trouve ça tough, moi, d'aborder ça avec mes gars.
Hey, puis là, tu as dit quelque chose que je trouve important. Tu as dit oh, « ben, moi, j'ai des gars ». Attends un peu, là. Des situations d'abus sexuels par des femmes adultes sur des jeunes hommes.
Il y en a.
Il y en a, ouais. Là, et j'en connais.
On a l'impression qu'il y en a de plus en plus, mais j'ai l'impression que ça a toujours existé. C'est juste qu'on n'en parlait pas tant dans les médias.
Non, c'est ça. Puis pour un jeune homme, admettons, qui se retrouve à entretenir une relation amoureuse, entre guillemets, totalement inappropriée avec une femme adulte, il y a comme en plus l'espèce de pression de « Hey man, t'es chanceux, tu devrais pas te plaindre de ça ». Fait que si le jeune est bouleversé...
Une femme
d'expérience. Ouais, c'est ça. Fait que si le jeune est bouleversé de ça, puis que ça a des impacts sur son estime personnelle, ben ça se peut qu'il ne se sente même pas légitime d'en parler parce que les gens autour vont dire « Ben là, franchement, t'es donc ben hot, tu couches avec une fille de 40 ans alors que tu n'avais 12-13. »
Fait que je fais quoi? Je fais quoi pour parler de ça avec mes gars ou je fais quoi pour parler de ça avec mes deux préfables à la maison?
Ben écoute, il faut trouver le bon moment. Ça, c'est le plus compliqué, mais tu sais, justement, là, ça n'est un bon moment.
Ouais.
Il est arrivé quelque chose dans l'actualité. C'est un bon timing pour dire « Hey, je sais pas si t'as entendu parler de ça. Justement, je voulais t'en parler. » Et là, il y a plein d'adultes qui ne savent pas. Sachez que l'âge légal de consentement pour avoir des rapports sexuels, puis là, écoutez bien, là, les rapports sexuels, là, c'est pas nécessairement faire l'amour ou avoir une relation sexuelle complète avec pénétration, là. Embrasser, se laisser toucher, se laisser caresser, un contexte de nudité, se montrer nu, c'est avoir des rapports sexuels. Le consentement sexuel au Québec, il est à 16 ans. À 16 ans, une jeune fille, un jeune homme peut décider de faire l'amour avec qui il veut dans la mesure où c'est pas une relation d'autorité.
Puis c'est 5 ans aussi, si je me trompe pas. Tu as l'effet du 5 ans.
Je m'en viens là. À 16 ans, il n'y a pas de 5 ans. À 16 ans, la jeune fille, le jeune homme peut avoir des rapports sexuels avec qui veut, peu importe l'écart d'âge, mais pourvu qu'il n'y ait pas de relation d'autorité. Fait que si je reprends la situation de la personne dont je parlais tout à l'heure, elle, c'était son professeur de mathématiques, c'est illégal. Ça ne marche pas. Si c'est ton patron, ça ne marche pas. Si, en tout cas, bref. Si c'est ton coach, ça ne marche pas non plus. Il y a une relation d'autorité. À 14 ans, un jeune homme, une jeune fille ont le droit aussi d'avoir des rapports sexuels. Et là, c'est dans la mesure où il n'y a pas un écart d'âge supérieur à 5 ans.
C'est 5 ans.
5 ans à 14 ans. Et il y a même, possiblement, la possibilité d'avoir l'accord sexuel dès l'âge de 12 ans pour des rapports sexuels, dans la mesure où l'écart d'âge est de 2 ans.
Ça, c'est les conservateurs qui avaient revu tout ça puis qui avaient monté l'âge de consentement. Au début, il y a des gens qui étaient bien outrés, mais moi, je trouve que ça a vraiment du bon sens de mettre ça à 16 ans puis qu'il n'y ait pas de situation d'autorité parce que là, ça finissait plus. J'aborde ça comment? Là, je prends l'article de journal là, du Soleil, puis je l'imprime, puis là, je parle de ça à mes gars, puis je parle de ça à mes préfables.
Ouais, vraiment.
Voici ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
c'est
autres?
C'est ça. Puis, tu sais, comment vous voyez ça? Puis, tu sais, je les informer sur, justement, les fameux écarts d'âge. Parce que, tu sais, moi, j'ai un jeune homme aussi dans mon entourage qui s'est retrouvé dans un party. Puis, bon, jeune fille, il y a du fun avec elle. Elle se montre très, très ouverte. Et là, bon, ben il y a des caresses, etc. Pour finalement apprendre plus tard que lui, admettons, il a 17 ans, la jeune fille a 12 ans. Et il dit, écoute, il n'y avait rien, j'avais aucun indice là, qu'elle avait 12 ans. Néanmoins, il s'est fait arrêter.
Il avait quel âge?
Il avait 17.
Ça, c'est un cas qui a été médiatisé?
Non.
Pas celui-là.
Il n'a pas été. Okay. C'est pas allé en cours finalement.
Parce qu'il y en avait eu un qui avait été médiatisé, mais je pense qu'il est un petit peu plus vieux que ça. Et la jeune fille était autour de 14-15 ans. Puis il entretenait une relation amoureuse depuis déjà plusieurs mois.
Ouais.
Puis à un moment donné, je crois que c'est la mère ou le père de la jeune fille qui a dit non, là, c'est ça, c'est
ça
interdit. Puis le jeune homme s'était fait arrêter.
Ben oui. Mais c'est banal, comme tu es un jeune homme de 20-21 ans, tu sors avec une fille de 14 ans, tu es dans l'illégalité.
Exact.
C'est capoté.
Exact.
Là.
Ouais. Fait que tu sais, je trouve ça important que nos jeunes connaissent la loi à ce niveau-là.
Samuel de Champlain aurait été arrêté à l'époque.
Oui, il y en a une couple dans l'histoire qui aurait été arrêtée. Je trouve ça important donc qu'on informe nos jeunes par rapport à la loi, par rapport à ça. Et après ça, tu sais, je trouve ça important qu'on pousse un peu la conversation et qu'on parle de consentement.
Oui.
Tu sais, chez les adultes, on parle de consentement beaucoup, mais je suis pas sûre que nos jeunes sont tant au fait de ce que c'est le consentement.
Mais c'est banalisé,
sont...
en fait.
Oui.
C'est banalisé parce qu'il y a tellement eu des... On a tellement voulu bien faire que ça a mal fait. Il y a tellement eu des campagnes avec le « sans oui, c'est non », puis dans les écoles, que je pense que c'est devenu un peu une blague.
Oui.
Plus que réellement, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que c'est, puis c'est quoi les limites du consentement aussi.
Oui, puis tu sais, il faut comprendre que le consentement, c'est pas juste pour les relations sexuelles complètes.
Non, c'est pour tout.
Tu sais, oui.
Mais tu sais, Nancy, je te donne un exemple là, super banal. Moi, quand j'étais ado, il y avait des... Tu sais, les internets, Facebook commençaient, OK? Puis je me souviens, il y avait beaucoup de mèmes qui passaient, puis d'images, puis c'était des cute, super... Des couples super cute, tu comprends, des photos. Tu voulais être ce couple-là, puis c'était écrit, mettons, quand elle te dit non, mais tu sais qu'au fond, c'est oui, tu sais.
Ouais.
Dans le sens que comme si des fois, les filles, on était comme, oh non, fais pas ça, puis ça voulait dire continue, tu sais. Mais tu sais, moi, mettons, mon adolescence est faite sous ces messages-là.
Ah oui.
Puis aujourd'hui, pourtant, je veux dire, sans oui, c'est non. C'est ça le consentement.
Ouais. Quand il y a eu le MeToo, moi, il y a des filles avec qui je travaillais qui m'ont dit qu'il y a des ex qui les rappelaient pour s'excuser.
Ah oui, mais super. Ouais.
Parce qu'ils se sont posés des questions en disant, t'as peu, là, moi, je suis en train de voir ça aller, puis là, il y a des gens qui auraient forcé des relations sexuelles. J'ai des excuses à faire.
Ouais.
Puis il y a une fille, entre autres, ça m'a marqué. C'est une fille avec qui je travaillais, elle m'a dit, il y en a deux qui m'ont appelé pour s'excuser. Ouais.
C'est fou, hein?
Ben, tu sais, quand t'as jamais été là-dedans, t'as l'impression que ça existe tout le temps juste ailleurs.
Ouais,
puis là, ben, j'avais un cas typique de quelqu'un qui avait toute sa tête, une femme extrêmement intelligente. Ça a été arrivé deux fois.
C'était amené comme si la fille voulait se faire désirer. Fait qu'elle dit, oh non, non, je veux pas, tu sais. Mais dans le fond,
Vois, moi, ma fille, j'avais eu cette discussion-là avec elle, puis j'avais dit, là, écoute-moi bien. Si ça te tente pas, si t'es pas sûr que ça te tente, émet un nom clair et ferme. OK?
Ouais.
Donc, tu sais, on veut tout le temps être cute, on veut toujours être fine. Puis moi, écoute, le nombre de fois où je me suis retrouvée dans des situations avec un gars qui me trouve donc bien cute, puis que là, il me jase, puis qu'il me pogne par la taille, puis by the way, il me taponne les fesses un peu, puis là, j'ose pas trop réagir. Bien là, je disais à ma fille, je dis là, écoute, si quelqu'un te taponne les fesses, ça te tente pas, tu y enlèves la main, tu fais comme, hey, stop.
C'est assez clair.
OK, sois clair. Puis permets-toi d'avoir un petit air bête. Pète pas une coche, mais permets-toi de dire c'est parce que je t'ai pas permis de me toucher, mon cher.
Ouais.
Et donc, permets-toi d'être clair et ferme. Puis, quitte à ce que ça dérange la personne, quitte à ce qu'il te trouve hystérique, garde, ça te tente pas, ça te tente pas. Puis là, j'avais pris le temps d'expliquer à ma fille. Et t'as le droit que ça te tente. Puis qu'en cours de route, t'as le gars, il est maladroit, il est pas fin, ou finalement, ça te tente plus, parce que, regarde, t'as le droit en cours de route de dire, « Hey, si tu veux, on va arrêter ça, là. » Puis s'il est pas content, ben permets-toi de te fâcher un peu, puis dire, « Hey, je t'ai dit stop. »
Comment on aborde ça avec nos boys?
Attends un peu, avant. J'ai dit aussi à ma fille, Par contre, si tu penses que ça te tente, dis oui.
Oui.
Dis pour pas un non, que dans le fond, bon, tu ça. Dis non parce que ça te tente que le gars y insiste, puis un non, tu sais, le petit non, oh non, voyons, on devrait pas. Non, non, regarde, ça te tente, go for it, et sois clair. Fait que sois clair des deux bords. Mm. Parce qu'on peut pas demander au gars, puis là, ben tu sais, écoute, on fait ça sexiste, là, parce que l'inverse existe aussi. On peut pas demander au gars de dire « ben faut que je devine, là, la fille a dit un non, mais c'est peut-être pas un vrai non, puis là, ben je vais... » Tu sais, je veux dire, on va pas juste mettre ça sur les épaules des gars, là. Ouais. Fait que là, ben expliquez à nos filles, ben écoute, si ça te tente, puis que c'est ça que tu veux, sois clair. Mm. Fait que joue pas la fausse prude, puis go for it, puis ben si ça te tente pas, ben dis un non clair. Puis si t'es pas sûr, dis « sais-tu, écoute, je suis pas sûr. » That's it.
Ouais.
C'est
des bons reminders, même comme adultes, je trouve. Là,
ben oui.
Dans le sens qu'on a tous été élevés dans un moment où, avec un contexte qui fait qu'on n'a pas la même interprétation de ce fameux consentement non plus. Et je me suis toujours demandé, ce que j'allais dire, en fait, c'est avec les gars, comment, y a-t-il une façon différente de l'aborder avec tes petits gars ou tes petites filles? Et, tu sais, moi, j'avais déjà entendu, je suis donc bien contente d'avoir un petit gars parce que j'en ai juste une à surveiller, puis j'en ai pas, tu comprends, un million.
Ouais.
En voulant dire, comme avec ma petite fille, c'est plus compliqué parce que...
Quand t'as un gars, t'as une graine à surveiller. Ouais, quand t'as une petite fille, t'as toutes les graines du quartier.
C'est ce que je voulais dire.
Ouais.
Fait que c'est un
oui
peu ce que j'avais entendu.
Et non. C'est sûr que, tu sais, dans les proportions, il y a plus d'agressions sexuelles ou d'abus sexuels commis par des hommes envers des femmes. Mais, tu sais, ça se peut que ton gars soit pas hétérosexuel, mais aussi, ça existe aussi,
ouais,
des agressions sexuelles. Puis là, quand je parle d'agression sexuelle, là, je parle d'agression sexuelle au sens large. Moi, j'ai des chums de gars qui m'ont dit, hey, le nombre de fois où je suis allée dans des bars, puis que je me suis fait pogner les fesses, ou que je me suis fait faire des commentaires absolument complètement déplacés par des patronnes, ou par, tu sais, puis j'osais pas réagir. J'étais un gars. Hein, je suis un gars, je suis censé trouver ça drôle.
Un
moi,
homme,
mais non.
T'es un homme.
Fait que tu vois, avec les garçons de mon ex, moi, j'avais eu la discussion en disant, écoute, ce que je dis, là, c'est valide autant pour toi pour un gars que pour une fille. Ça tente de coucher avec quelqu'un, ben sois clair. Ça tente pas, ben dis non. T'es pas obligé, parce que t'es un gars, de prendre toutes les opportunités, puis t'es pas nécessairement supposé de trouver ça le fun quand une fille te fait des avances non sollicitées. Fait que, tu sais, j'ai un petit client, là, tu sais, que c'est sa demi-sœur qui fait des avances non sollicitées de façon régulière, en tout cas la fille de la conjointe de son père. Puis là, ben, tu sais, il dit, tu sais, je ne sais plus comment réagir. Ben, fâche-toi. C'est-à-dire, hey, je t'ai dit d'arrêter, je trouve pas ça drôle. Fait que là, ouais, mais tu sais, mais il y a encore cette espèce de pression-là, mm-hmm, chez les gars de, ben, ils sont censés tolérer parce que c'est un gars. Ah, ben non.
Ouais.
Ben non.
Il y a un de mes chums d'enfance qui m'envoie une histoire, puis il me l'avait raconté parce que ça l'impliquait directement, là. La fille de sa conjointe a été agressée sexuellement par un homme. Le gars, d'ailleurs, va être sentencé le 26 prochain, donc dans quelques jours, au Palais de justice de Québec. On ne peut pas donner le nom parce qu'il y a un lien avec un enfant aussi dans le dossier. Donc, on va garder ça confidentiel. Mais le gars disait, pour sa défense, qu'il était en amour avec la jeune fille de 13 ans. Cette jeune fille de 13 ans-là avait un petit chum qui était le fils de l'agresseur.
Oh!
Donc, lui, il profitait de la visite de la jeune fille chez son fils pour l'agresser sexuellement. Non, non, vous ne pouvez pas dormir ensemble. Elle va dormir sur le divan. Et le soir, ben, quand son fils dormait, lui allait l'agresser directement sur le divan. Puis, tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, tu sais, les jeunes filles qui n'ont pas de figure paternelle, pour être susceptibles d'être approchées, ben, dans ce cas-ci, c'est en plein ça, c'est qu'elle voyait ce gars-là comme une figure paternelle, un père qu'elle n'avait jamais eu, qui la valorisait. Donc, pour continuer de recevoir de l'amour et de l'attention, ben, elle lui donnait quelque chose que lui voulait, et lui la nourrissait de l'autre côté. Puis heureusement, elle a décidé de porter plainte parce qu'elle a raconté toute l'histoire à sa mère. Ça s'est déroulé sur une période d'un an, entre juin 2020 et août 2021. Puis le gars a dit au policier, « Oui, mais Mais là, je suis en amour avec. Je suis en amour avec une petite fille de 13 ans. Fait qu'heureusement, il a été déclaré coupable, puis il va être sentencé le 26. Ça arrive plus souvent qu'on pense.
Ouais.
Puis changeons un peu de dossier, parce que je trouve ça important. La fidélité. J'aborde tout ça avec mes gars. J'aborde tout ça avec mes préfables.
Oui, bien, en fait, moi, je trouve ça important qu'on parle d'éthique sexuelle avec nos jeunes, pas juste de consentement. Tu sais, l'éthique sexuelle, là, tu sais, puis bon, présentement, là, c'est à la mode du ghosting. Bien, on peut-tu avoir une discussion sur le ghosting? Ça se fait pas. Tu commences à rencontrer quelqu'un, la personne te plaît, tu lui montres qu'elle te plaît, puis à un moment donné, tu changes d'idée. Ça se fait pas de juste mettre ton courage, mettre tes couilles, mettre tes ovaires. C'est ça, savoir-vivre, le respect appelle.
Les filles sur les réseaux sociaux, vous vous faites charmer en même temps par 20 gars. Fait que là, à un moment donné, vous faites un tri, puis il y en a à qui vous parlez encore, puis d'autres à qui vous parlez plus. Puis là, jusqu'à temps que tu choisisses l'être...
Oui, mais
riche.
C'est quoi
de aimer.
Ben, mais tu vois, justement, ça peut être une belle discussion à y avoir. C'est quand est-ce que tu tombes dans le ghosting, puis quand est-ce que c'est juste, je sais pas, moi, tes réseaux de rencontres, puis là, ben, à un moment donné, tu te changes un peu avec quelqu'un, puis finalement, bon, ça ne donne pas, puis tu laisses aller les affaires, puis il n'y en a pas un des deux qui se rappelle.
Mais tu lui dis à cette personne-là?
Ben, ça dépend. Tu sais, je veux dire, si tu as échangé trois, quatre salut, ça va, qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Parce que des fois, c'est comme pas tant profond, les réseaux de rencontres.
Quand tu ouvres ton message, tu t'écris 5 fois en ligne à l'intervalle de 2 jours. Salut, ça va? Salut,
ouais,
ça va?
C'est
salut,
ça
va? Salut, ça va? Je comprends que tu le ghostes, mais si tu as une relation avec cette personne-là, tu lui jases, puis du jour au lendemain, ça se termine, tu lui dis, hey, écoute,
ouais,
ça a été des super de belles discussions, mais je le sens pas.
C'est une question
de respect. Je
ne
veux pas te faire perdre ton temps.
Question de respect, tout à fait. Question de respect.
Donc, avec nos enfants,
on peut jaser de tout ça. On peut jaser aussi de fidélité, justement. Mais tu sais, c'est quoi pour toi l'infidélité? Puis moi, j'ai adoré l'adolescence. Là, je l'ai vécu avec ma fille puis les deux gars de mon ex. Puis j'ai adoré l'adolescence, justement, pour ces discussions-là. Un moment donné, c'est comme, on parle de fidélité. À partir de quel moment, toi, tu juges que tu es infidèle? Est-ce que l'infidélité, c'est quand tu embrasses quelqu'un? Est-ce que l'infidélité, c'est quand tu as une relation complète avec quelqu'un? Est-ce que l'infidélité, c'est quand tu flirtes
les différentes
avec
variables.
Quelqu'un alors que tu as une blonde?
Les différentes variables de
l'infidélité. Oui, c'est ça.
Mais en même temps, être un modèle aussi pour ses enfants. T'sais, si tu présentes une nouvelle belle-mère à chaque 2-3 jours à tes enfants, ça se peut que ton gars reproduise à peu près la même chose plus tard.
Ton gars ou ta fille?
Aussi.
Faisons attention. Faisons attention à notre.
Mais les troubles d'attachement qui se créent. Puis
Oui, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant qu'on ait ces discussions-là sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Avoir des discussions avec nos jeunes sur c'est quoi une joke qui se fait, puis une joke qui se fait pas. À qui tu as le droit de faire un commentaire sur t'as des belles fesses, puis à qui c'est pas une bonne idée de le faire. Nos jeunes, ils savent pas ce qu'ils savent pas. Tu sais, fait que quand est-ce que c'est correct que à ta chum de fille, tu fasses une blague un peu grivoise? Puis, ben quand est-ce que c'est pas correct? Puis là, ben tu sais, jauge et juge lesquels de tes chums de filles ça met mal à l'aise, puis lesquels de tes chums de filles, c'est correct.
Je trouve ça tellement spécial, mais j'ai l'impression que ça a comme un lien étroit, mine de rien, avec les écrans. Puis je m'explique, mais tu sais, ce que je lis dans ce que tu dis, Nancy, c'est apprendre à « read the room », qu'on dit.
Oui.
Apprendre à être sensible aux autres, à prendre conscience de ton environnement. Puis c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à faire, je sens, dans notre société actuelle.
Exact.
Parce qu'on est tellement concentré sur le « en ligne », sur notre téléphone. Tu sais, Anne, on a déjà parlé ensemble, puis je fais un petit bond, mais on a de la misère à se regarder dans les yeux dans l'ascenseur puis se faire un sourire pour se dire bonjour. Là.
Oui.
Fait que ça devient difficile dans un contexte social quand tu grandis là-dedans, de réaliser ce qui t'entoure. Puis je pense que c'est là que c'est difficile de savoir quand c'est le bon moment puis quand ça ne l'est pas.
Bien, on ne se cachera pas que nos jeunes, surtout avec la pandémie et les réseaux sociaux et les jeux vidéo, ont des retards et des lacunes importantes au niveau des habiletés sociales puis de l'empathie. La capacité à lire justement ce qui se passe chez l'autre. Puis tu sais, parler de consentement, parler d'éthique sexuelle, ça commence très tôt, là.
Moi, ouais, quel âge, hein? C'est dur, je trouve.
Ben écoute,
c'est quoi les signes? Les signes?
En fait, ça commence quand mon jeune ne veut pas donner de bisous à ma tante Tortubise et que moi, je dis à ma tante Tortubise de ne pas le forcer.
Exact.
Ça commence quand mon jeune est rendu à 5 ans puis que je suis en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Puis je l'ai vu avec une cliente il n'y a pas longtemps. Je discute avec son petit gars, il a 5 ans. Et là, il l'escalade. Puis là, il s'installe sur ses genoux. Puis là, il taponne d'en face. Puis là, à un moment donné, il est rendu les mains dans son chandail. Puis maman s'en rend pas trop compte.
Elle laisse faire.
Elle laisse faire. Puis là, je fais, Julie, t'es-tu confortable? C'est-tu le fun pour toi, là? Ce qui se passe, elle dit, oh, mais tu sais, il m'a pas vu de la journée. Il est affectueux. Je dis, OK, mais t'es-tu à l'aise que ton garçon, si ton garçon montait sur mes genoux à moi puis qu'il le faisait à moi, serais-tu confortable?
Ah non, faut que tu leur montres
l'exemple. S'il s'en va à l'école, puis que quand il voit une petite fille qui est cute, il décide qu'il la colle, puis il met les mains dans son chandail. Il dit, ben voyons donc, il fera pas ça. Ah ben oui.
Mm. Ben oui, ou c'est tu veux toi, qu'il l'apprenne autrement?
Ben oui.
Tu sais, à maison, nous autres, c'était, ça a toujours été ça. Mes gars, je leur donnais des bisous dans le front. Puis la mère de mes gars, si mes gars voulaient donner des bisous sur la bouche de leur mère, c'était de leur affaire. Puis après ça, ben je leur montrais que c'était possible aussi de faire un colleux à papa. C'était possible aussi de faire un colleux à maman.
Ben oui.
Tu sais, pour démontrer, c'est quoi les façons de faire pour démontrer que l'autre personne, tu l'affectionnes?
Oui.
Mais on a commencé très... Mais je veux dire, c'est à cause
on
de
peut même, on peut même arriver...
Ça
là,
fait quoi, à... combien d'années tu m'achales à chaque soir puis à chaque jour quand pour être avec nous autres pour nous apprendre des affaires? Ben moi, c'est gratis.
T'es chanceux.
Moi, je t'invite tout le temps, puis là, je deviens un génie. Puis là, je répète ça aux gens. Mais
tu sais, on peut... Pour les
câlins,
là...
Tu m'as tellement appris des affaires, SOS Nancy. T'as pas idée à quel point tu as fait en sorte que j'ai des discussions saines avec mes enfants.
Ben oui.
À quel point aujourd'hui, mes gars, nous autres, on y va plus sous forme de joke là, quand on se parle, mais à quel point mes gars, ils ont une façon de démontrer, exemple, leur affection à plein de personnes, mais c'est des façons différentes. Puis c'est jamais, un peu comme tu nous décrivais tout à l'heure, là, la main dans le gilet de leur mère, c'est jamais
ben,
ça.
C'est ça.
Ça a resté simple parce que tu nous l'as appris dès le départ.
Puis on peut leur apprendre, ça, admettons, au niveau des câlins, bien, les câlins demandent avant. Tu sais, va pas te garrocher sur quelqu'un. Moi, là, des fois, je vais dans des milieux scolaires, puis dans des écoles, puis des fois, tu as des enfants qui me connaissent un peu vaguement, puis qui viennent me voir, puis qui s'en viennent me coller d'emblée. Puis là, je fais, attends un peu. Avant d'aller coller quelqu'un, on demande la permission. C'est important. Fait qu'on peut le faire avec nos enfants, dire, bien, je vais t'offrir un câlin.
Ouais.
Je vais pas te donner un câlin non sollicité. Je vais te... Avant d'aller te donner un bisou, je fais comme, je peux te donner un bisou, mon bel amour? Oui, puis là, je lui donne son bisou. Mais je fais juste lui demander avant, puis ben je lui demande qu'il me le demande avant.
Puis lui,
aussi.
Va le reproduire. Ben oui.
Ben oui, tout à fait. Puis ça commence tôt, là, 3 ans, 4 ans,
c'est
5
génial.
Ans.
Puis le pire, c'est que souvent, c'est le fun pour l'adulte aussi. Là, moi, mon neveu et ma filleule, là, je veux dire, une fois, j'ai eu le réflexe de vouloir, en arrivant à faire un câlin pour dire allô, puis il était pas rendu là. Là.
Ben oui.
Tu sais, puis c'est normal. Puis tu vois, maintenant, quand je rentre à la maison, j'attends, je read
oui.
the room.
Ben, c'est
à savoir,
ça.
Y es-tu rendu là ou pas? Puis à un moment donné, je demande, viens-tu me faire un câlin? Viens-tu me dire bonjour? Souvent, mais ben, là, j'en ai un câlin. Mais on a comme le réflexe, on dirait de vouloir prendre en otage tout de suite puis avoir notre dose d'amour, tu sais.
Fait que ça, je trouve ça poche. Quand les adultes font ça, je transgresse la bulle de l'enfant. Puis l'enfant, il est supposé trouver ça drôle. Moi, j'avais un oncle, puis écoute, pas mal intentionné pour deux scènes, là. Mais quand j'étais jeune, il disait, moi, j'ai pas de fille. Puis là, il me prenait un peu de force, tu sais, puis il m'assisait sur lui. Puis là, j'étais mal à l'aise. Puis là, j'étais pas confortable, puis là, il voulait me garder sur lui. Ah, il faisait rien de déplacé, là, on s'entend, là. Mais moi, j'étais mal à l'aise, puis mes parents, ma mère me faisait des gros yeux en voulant dire, là, tu tolères, tu fermes ta boîte. Ah, ben non. Puis là, écoute, c'est une autre époque, là, mais aujourd'hui, ça serait intéressant de dire à l'oncle en question, écoute, si elle n'a pas le goût, on va respecter ça, d'accord? Puis ouais, on comprend ça, que tu n'as pas d'enfant, que tu n'as pas de fille, mais c'est correct. Elle n'a pas envie aujourd'hui. Hein, Nancy, tu lui dis hein, à l'oncle, machin, truc, si tu as le goût, c'est correct. Si tu n'as pas le goût, tu as le droit de dire non.
À quel âge qu'on commence à jaser avec nos enfants de l'alcool, prendre un verre avec nos enfants? Moi, j'ai encore une photo de moi là, qui est chez nous. J'étais pas vieux, j'étais avec un petit verre de crème de menthe verte. J'ai aucune idée qui m'avait mis ça dans les mains. Mais quand je vois cette photo-là, j'ai l'impression que je suis plus jeune que mon plus jeune de 8 ans.
Ah oui, moi aussi, c'était très tôt.
C'était très tôt. Hein? Maintenant, aujourd'hui, 2025, quand est-ce qu'on commence à aborder l'alcool avec nos gars, nos filles?
Écoute, sujet extrêmement délicat que je me permets d'aborder avec vous. Personnellement, il devrait y avoir aucun alcool, surtout offert par les adultes, avant l'âge de 14-15 ans. Il y a plein de raisons pour ça. C'est qu'à partir du moment où moi, comme adulte, je permets... Le propre de l'adolescence, c'est de dépasser les limites. Donc, si moi, comme adulte, je le sais, là, tu sais, que bon, ça se peut bien qu'à 13-14 ans, l'enfant, il commence à prendre l'alcool à cachette. Mm-hmm. Mais à partir du moment où moi, je dis, OK, ben, je te permets deux, ben, je lui donne son aval pour un ou deux verres, ben, il va en prendre 4-5 à cachette.
Tu penses?
Ben oui.
J'ai le goût de te relancer. Parce que, puis je sais pas si ça dépend juste des comportements, mais tu vois, moi, mes parents n'ont pas eu le choix d'utiliser avec moi un peu de psychologie inversée. Parce que moi, j'avais tendance à vouloir justement défaire un peu les barrières puis les règles.
Mais t'es alcoolique aujourd'hui.
Totalement. Honnêtement, le pire, c'est que je bois seulement de façon sociale quand je sors. Mais chez nous, mettons, avec mon chum, on prend même pas un verre de vin le vendredi soir. Là, okay. On est très... Mais ceci dit, bref, quand j'étais plus jeune, je pense que mes parents ont remarqué à un moment donné que je me tenais pas nécessairement avec le bon monde. Okay. Puis il y a un moment où ça a été « Tu veux tester des affaires? Oh ouais, tu veux absolument goûter à telle affaire? » Puis ils sentaient que j'allais le faire. Fait que ça a été « Regarde, invite ton monde chez nous, puis si tu veux essayer des affaires, on va le faire ensemble. » Sais-tu quoi? Ça a donné l'effet que j'ai jamais pris de drogue adolescente. J'ai jamais rien. Je roulais des battes pour mes petits amis, mais j'étais trop heureuse d'en fumer un, tu comprends? Puis l'alcool, ben ma mère, elle m'a dit « Oh ouais, t'es si curieuse que ça? Parfait. » Elle
mais
m'a
pour
fait
moi,
goûter.
C'est
j'ai été malade, puis j'en ai plus repris.
Okay. Mais pour moi, c'est différent, ça. De dire, bien, regarde, tu veux goûter, je vais te le faire goûter. Mais de dire, bien, ah, tiens, on a de la visite, j'offre à mon ado de 13-14 ans de prendre un petit verre. Pour moi, c'est autre chose.
Je comprends totalement. T'sais.
Mais oui, je pense qu'il faut comme les initier un petit peu avec nous, devant nous, progressivement.
En
pour
sécurité,
que oui, c'est ça. Pour qu'ils sachent ce que c'est, puis qu'ils se garochent pas dedans à 16 ans dans le premier party. Là.
SOS Nancy, là, t'es spécialiste de l'éducation des enfants. T'es une éducatrice spécialisée.
Exact,
je pense que
c'est
ta profession, mais t'es coach familial. Tu es Madame SOS, SOS Nancy. On peut te retrouver sur l'Internet à ce nom-là. Est-ce que tu donnes encore des conférences? Tu donnes encore
beaucoup,
des cours?
Beaucoup. Oui, c'est ça, la plus grande partie de ma job, justement, c'est de donner des conférences et formations dans les écoles, dans les garderies, dans les organismes communautaires, pour les parents, pour les intervenants. Donc, sosnancy.com. Sinon aussi, il y a ma page Facebook, là, SOS Nancy Coaching Familial, où on donne un paquet de trucs gratuits. J'ai aussi un paquet de formations web qui peuvent intéresser les gens là, à écouter chez soi.
La Saint-Valentin est passée, mais je peux te dire que les auditeurs, ils t'aiment beaucoup.
Ah, oh, c'est beau, cool. Ça!
Puis nous autres, en fait... Audrey, t'aime beaucoup.
Oui.
Puis moi, ben, je t'adore.
Ah, OK. Assumé.
Merci, SOS.
Merci.
L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot.
Vous êtes sur Twitch, est-ce qu'ils ont entendu notre discussion?
Non, je leur évite ce genre d'affaires-là. Là.
Ouais. Audrey est en train de penser à avoir une deuxième carrière.
Ben, ils disent qu'il faut toujours un plan B, hein?
Ça implique des pieds. Ça implique
des bananes,
une banane.
Du chocolat.
Ça implique de la sauce au chocolat. Puis un vieux monsieur de 90$ qui paye 10 000$ pour voir tout ça.
Et potentiellement mon bain, tu sais, qui sait. Il faut quand même un endroit où je peux garder ça propre. Non, mais c'est une discussion. Puis le pire, c'est que j'aurais pu ouvrir Twitch là, rapidement. Et puis au pire, on en reparlera demain. Mais c'est qu'il y a tellement... Des fois, je me dis que les filles qui se laissent aller sur les sites comme OnlyFans et compagnie, sans faire de nudité, là, mais qui usent d'imagination parce qu'il y a des fétiches pour tous... C'est des filles intelligentes en tabouère. Parce qu'entre toi et moi, là...
Il y avait un party de filles chez nous l'autre jour, puis j'étais pogné à...
T'as été caméraman?
Les servir. Et je les écoutais parler. Puis là, ils parlaient d'une fille qui était sur OnlyFans. Puis elle, on voyait jamais son visage, mais c'était juste ses pieds avec des fruits et des légumes. Puis elle s'est rendue multimillionnaire avec ça.
J'ai même pas une hésitation à croire ça.
Puis là, toutes les filles voulaient changer de carrière. C'est des filles qui ont des grosses professions.
Ben oui.
Mais toutes les filles disaient, hey, t'as peu, là. Le gars, il est prêt à donner 10 000 piastres pour me voir avec mes pieds et une banane.
Mais
de la
c'est
sauce
nous
au
autres
chocolat.
Les épaisses, là. C'est... J'adore mon travail, là. Puis je dirais, mon salaire est correct, là.
Ce que je leur ai dit, vous êtes pas mal plus attirantes, les filles, quand vous vous respectez.
Absolument.
Voilà.
Là-dessus, t'as un méchant bon point. Mais c'est parce qu'ils pensent quand même que c'est 10 000 piastres en un mois, hier.
Ouais, t'as raison.
Oh,
mais toi, tu fais pas ça ici?
Non, je fais pas ça. Moi, je gagne ma vie à vous jaser.
Bon, on m'avait dit lors de la négociation de contrat qu'il y en avait plus parce que tu chargeais trop. Allez, à tantôt. Jean Leloup, I lost my baby.
I lost my baby.